Et avec cet appel résonne aussi celui d'abandonner certaines choses. Une valise verte, par exemple. Alors, ceux qui rigolent, ils étaient là il y a 2 semaines. Et ce matin, nous entrons dans le sermon sur la montagne, ce discours, ou ce regroupement discours de Jésus, qui s'adresse à des gens qui, finalement, n'avaient pas grand-chose à perdre. Le public qu'il avait en face de lui, c'était des fermiers ou des pêcheurs, bien souvent au crochet de la société. Et ces citoyens, ces gens-là, étaient en quête d'autre chose de ce qu'ils vivaient. Ils voulaient vivre autre chose. C'était des gens qui étaient profondément insatisfaits de leur situation. Alors Jésus vient et puis il leur dit, « Moi, je sais ce que c'est que le bonheur. Je sais ce que c'est que le bonheur et je vais vous le présenter. » Jésus leur propose quelque chose de nouveau. Jésus est en train de leur donner un sens à ce qu'ils recherchent. Et avant de poursuivre, j'aimerais vous poser la question, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour mener une vie heureuse? Voilà, j'ouvre un moment d'interaction. Jésus. Voilà, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour vivre une vie heureuse?
L'argent.
La paix. La santé. Imaginez-vous pas dans une église maintenant, mais plutôt avec vos collègues, enfin dans un cadre hors et église. C'est quoi? Du sport. Des bonnes relations. La santé, la sécurité. Il faut être cool, avoir pas trop d'attentes. Ouais, mais ça, c'est... Merci Bernard. L'amour, voilà. J'entends plusieurs choses. On poursuit. On garde ces éléments en tête, ce qu'il faut pour avoir une vie heureuse. Et on va voir ce que Jésus va nous dire pour avoir une vie heureuse. Et voir le sens qu'il donne au bonheur. Matthieu 5. Versets 3 à 5. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront de la terre. Moi, je m'arrête là, ouais. Non, il y a déjà pas mal de choses à dire, j'ai déjà dû tailler dans les notes. Je m'arrête là. 3 versets, et on continuera la semaine prochaine, hein, mais 3 versets qui commencent par le mot « heureux ». Heureux. Mais ce qui suit, il n'y a rien de vraiment heureux. Qui est heureux quand il pleure? Voilà. Alors Jésus, là, ne parle pas d'une émotion ou d'un ressenti, mais il parle de ce que Dieu pense de ces gens-là. Dieu pense que les pauvres spirituels sont heureux. Dieu pense que ceux qui pleurent sont heureux. Et Dieu pense que ceux qui sont doux sont heureux. Dieu n'a vraiment rien compris à nos problèmes. Alors pourquoi est-ce que Jésus déclare ces gens heureux? Parce que c'est au cœur de ces difficultés, au cœur de ces réalités-là, au cœur de ces réalités de vie que Dieu peut venir les trouver. C'est quand on se reconnaît pauvre spirituel, quand on pleure, quand on est doux, non violent, c'est là l'endroit où Dieu peut venir nous trouver. Et je pourrais même m'arrêter là, puis le message serait fini. Mais j'aimerais donner quelques mots en plus, notamment sur heureux. Le mot heureux, qui revient à trois reprises, on le retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Le mot grec, c'est makarios. Makarios veut dire heureux. Voilà. Non, mais c'est important le grec quand même. Surtout quand ça ne nous avance pas. Mais ce qui est intéressant avec makarios, c'est quand on regarde dans la version grecque de l'Ancien Testament, makarios traduit un mot qui veut dire « ashrei ». Makarios traduit systématiquement le mot hébreu « ashrei ». « Ashrei », « ashrei », moi je l'écris « A-S-H-R-E-I ». Après en hébreu, je ne sais pas. « Ashrei » désigne la bénédiction et plus précisément un état de bénédiction. C'est un mot qui est utilisé pour décrire une personne qui est bénie. On pourrait dire, est-ce que tu vois cette personne qui a une Porsche ? Ah oui, alors cette personne, elle est ashrei, elle a une vie heureuse. Hein, vous voyez comment ce mot est utilisé ? C'est pour décrire l'état de quelqu'un. La personne, elle est ashrei aux yeux de ceux qui l'observent. Mais Jésus, là, nous dit des choses pas du tout ashrei. Ceux qui sont pauvres d'esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux. Il n'y a rien d'ashrei là-dedans. Mais il est décrit quand même comme heureuse. Pourquoi ? Parce que leur situation permet que le royaume de Dieu se déploie en elle. Ce que Jésus dit, c'est que la vie n'a un sens que si le royaume de Dieu vient. On peut chercher son bonheur dans plein d'autres choses. Le pouvoir, plein d'autres choses. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Vous en avez. Mais là, Jésus nous dit, et ça c'est le plus important, c'est que la vie n'a un sens que si le royaume vient. Des fois, on achète des choses. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai récemment acheté une montre connectée pour aller courir. Ça faisait des mois que je regardais les montres connectées. J'attendais que les nouveaux modèles sortent pour acheter l'ancien un petit peu moins cher. J'ai comparé les choses et j'avais vraiment un plaisir à faire ça. À comparer, je me dis, mais le jour où je l'achèterai, ça va être quelque chose d'incroyable. Et franchement, j'ai presque plus de plaisir à désirer cet achat. Et puis une fois qu'elle était là, bon, bah, je la porte. Mais je suis presque passé au suivant. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Je pensais que ça allait m'apporter le bonheur. Finalement, pas. Alors j'ai un certain plaisir, j'y vois une certaine utilité pour ce que j'en fais, mais je crois dire mon bonheur est tout relatif. Jésus dit que les personnes ashrei ne sont pas celles qui ont des montres connectées, mais sont les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont doux. Les pauvres en esprit, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Bon, c'est bon, je vous le dis. Les simplets, t'as dit ça ? Ouais, ouais, mais je pensais que c'était ça, tu vois, des gens qui se posaient pas trop de questions puis qui acceptaient les choses comme elles viennent. Mais pauvres en esprit, et là il faut de nouveau regarder les langues. Je suis désolé ce matin, c'est terrible. Le mot grec qui pour dire pauvre, c'est ptokoi, qui veut dire pauvre, voilà. Mais tout se joue sur le mot esprit. Esprit en grec se dit pneuma. Pneuma traduit généralement l'hébreu « rouar ». Et avec tout ce que ce mot « rouar » dans la pensée hébraïque signifie, c'est un mot « valise » qui veut dire beaucoup de choses, et on pourrait le traduire par la vitalité de l'esprit, l'énergie de l'esprit qui est là. Donc, Jésus, avec tout son bagage de l'Ancien Testament, souhaite dire « les pauvres en esprit, c'est des gens qui manquent de ressources, des gens qui n'ont pas l'énergie ». Qui n'ont pas cette vitalité de l'esprit. C'est comme une voiture qui tombe en panne, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus rien pour la faire avancer. Jésus nomme ici des gens, désigne ces gens qui n'ont pas la capacité à se lever et à agir dans le monde, parce que ces gens-là n'ont aucun pouvoir. aucun pouvoir religieux, aucun pouvoir social. Ces gens-là, qui n'ont aucun pouvoir, ne dépendent que de Dieu. Ces gens sont heureux. Heureux parce que leurs mains sont vides. Ils n'ont pas d'influence. Vides de pouvoir, d'influence, de notoriété. Ils sont heureux car leurs mains sont vides. Elles sont ouvertes, prêtes à recevoir le royaume de Dieu. Alors les pauvres en esprit, ça peut simplement désigner des personnes qui sont vulnérables, qui sont réellement pauvres. Ceux à qui on dit qu'ils n'ont pas de voix, on ne veut pas les entendre. Socialement, leur avis ne compte pas. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont un certain pouvoir, et là je pense aux élections communales qu'on aura bientôt. On va élire des gens avec un certain pouvoir. Et Jésus ne dit pas qu'il faut renoncer au pouvoir, mais reconnaître que l'influence qu'on a ne vient que de Dieu. Dire le pouvoir que j'ai, je le donne à Dieu, et je ne dépends finalement que de lui. Jésus ne s'oppose pas au pouvoir, mais le pouvoir s'accompagne de responsabilité. Et pour un chrétien, c'est reconnaître sa dépendance à Dieu. C'est oser se présenter à Dieu les mains vides. Je reprends mes amis. Cette valise verte a fait fureur il y a 2 semaines. Tout le monde m'a dit qu'elle était trop bien et tout. Et puis alors, je dis, je la garde avec et puis je vais essayer d'en faire quelque chose. On a vu la semaine passée, quand on suit Jésus, Jésus nous invite plus à une randonnée bivouac. Et pour une randonnée bivouac, il faut plutôt un sac à dos qu'une valise. Quand on est pauvre en esprit, c'est simplement de lâcher sa valise. C'est difficile de présenter des mains vides avec cette valise-là. Je peux essayer. Je n'y arrive pas. Par contre, si je laisse ma valise et je mets le sac à dos, c'est beaucoup plus facile. C'est reconnaître que cette valise-là, il faut vraiment la laisser de côté. Heureux sont ceux qui laissent leur valise verte de côté. Jésus parle ensuite de ceux qui pleurent. Les pleurs, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, sont souvent liés au deuil. On pourrait dire ceux heureux, ceux qui vivent continuellement dans un état de deuil. Oui, c'est ce que j'ai dit, heureux ceux qui vivent continuellement dans un état de deuil. Car ces gens seront consolés. Et en mentionnant la consolation, Jésus ne tend pas simplement un mouchoir en disant « ça va aller », mais il s'appuie sur le prophète Ésaïe qui dit « consolez, consolez mon peuple ». Et cette parole d'Ésaïe annonce la fin de l'exil, la restauration de la terre d'Israël pour un peuple qui en a été chassé. La consolation dont parle Jésus annonce finalement un renversement futur de l'âge présent. Notre monde va être renversé parce que le royaume vient. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés annonce l'arrivée du royaume de Dieu. Quand il apprend que Jérusalem est en ruine, Néhémie pleure et jeûne. Le deuil, c'est l'attente d'une restauration et de l'accomplissement des promesses de Dieu. Tout le monde expérimente la perte. Mais quand on a du pouvoir, on peut l'ignorer, on peut se distraire. Alors quand on est pauvre, c'est plus facile, on est coincé. Il nous reste que les yeux pour pleurer. Mais quand on a du pouvoir, je vais d'abord prendre le micro.
Quand on a du pouvoir, on a pas mal de choses pour se distraire. mes notes aussi. Tac. On peut choisir simplement de passer à côté, en se distrayant. Finalement, tout va bien. Il y a des choses bien plus heureuses que ça dans notre monde. On peut se réfugier derrière de la théologie aussi, pourquoi pas. Ça, c'était surtout pour mettre du poids. L'alcool aussi. Ça nous aide à ne pas voir forcément toutes les réalités qu'on aimerait, à fuir. La musique, les écouteurs, on ne veut pas entendre le bruit ambiant du monde. Des fois, c'est bienfaisant, mais des fois, c'est aussi une fuite.
Notre monde est dans un état qui mérite d'être pleuré.
Ceux qui pleurent, ce sont ceux qui font attention à ce qu'il se passe autour d'eux. Ce n'est pas ceux qui se disent « tout va bien ». J'ai Astérix, c'est bon, on peut passer à des choses mieux. Heureux sont ceux qui pleurent, c'est heureux sont ceux qui remarquent la perte, le deuil et la douleur et la souffrance des autres. Et c'est là, quand on pleure, un endroit privilégié où Dieu désire nous rencontrer. Dans ma valise, j'ai plein de choses pour me distraire. Si je n'ai pas envie de voir l'état du monde ou la souffrance des autres, j'ai plein de choses pour me distraire. Une bouteille pour l'apéro, un bouquin de théologie. C'est souvent un bon combo, ça. Astérix. Des écouteurs pour ne pas entendre la souffrance de l'autre. Mais quand j'ai mon sac à dos, quand je pars en bivouac, je ne prends pas Astérix ni un dictionnaire théologie avec. Je prends juste ce que j'ai besoin. Sinon, c'est du poids en trop. Je prends juste ce que j'ai besoin. Et je peux être attentif à ce qui m'entoure. Jésus dit ensuite « heureux les doux ». Certaines traductions disent aussi « les affligés ». Je vous épargne les langues ce coup-ci. Jésus s'adresse à des gens qui sont en bas de l'échelle sociale. Des Israélites dont le territoire est occupé, leurs propriétés sont certainement vendues et ils sont condamnés à vivre comme ouvriers sur leur terre ancestrale. C'est comme si vous êtes propriétaire d'une maison depuis de génération en génération et cette maison est vendue et puis vous êtes finalement condamné à être serviteur dans cette maison, mais elle ne vous appartient plus. Et c'est cette réalité-là que vivaient les auditeurs de Jésus. Dépossédés de leur terre. Alors ces gens-là n'avaient même pas de valise à prendre avec eux. Et parce qu'ils n'avaient pas de valise, ils n'ont plus rien, Jésus les déclare heureux. Heureux car ils hériteront de la terre. Imaginez, c'est quand même fou ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des gens qui ont une terre pendant des années, on les a dépossédés de la terre, et Jésus leur dit, parce qu'on vous a dépossédés de la terre, vous êtes heureux, parce que vous allez à nouveau hériter de la terre. À ces pauvres gens, sans terre, tristes, qui pleurent sur l'état de leur pays, qui sont opprimés par les Romains, Jésus leur dit, vous êtes heureux, vous, ceux qui êtes insignifiants, car vous êtes les héritiers du monde à venir. Dans ce discours, Jésus annonce son royaume qui vient. Ces trois déclarations montrent de manière surprenante et renversante la nature du royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qui frappe les yeux. Ce n'est pas la Porsche sur le parking. Ce n'est pas tout ce que je peux mettre dans ma valise. Moins j'ai de choses dans ma valise, et plus je suis proche du royaume de Dieu. Ces trois paroles, ces trois bénédictions nous invitent à vivre au fond de notre cœur une situation de bonheur. Non pas parce que nous avons, nous possédons, mais simplement de réaliser qu'il fait bon de faire partie de ce royaume qui vient, qui est déjà là. C'est dans nos faiblesses, dans nos larmes, dans nos dépossessions, c'est l'endroit où Dieu vient nous trouver. Quand nous nous sentons dépassés, tristes, stressés, quand on a l'impression de passer à côté de sa journée, peut-être même de sa vie, quand on sent que ses rêves s'en vont, quand rien ne va, c'est là où Dieu désire nous rencontrer. Quand ma vie ne semble pas refléter la vie idéale, c'est justement là que Jésus veut venir nous rencontrer. C'est là qu'il commence à faire venir son royaume en nous. J'aimerais terminer avec deux questions. Déjà, quel est mon plus grand bonheur dans la vie? Je ne vous demande pas de réponse, gardez-les pour vous. Quel est mon plus grand bonheur dans la vie? Et la deuxième question, qu'est-ce qui devrait encore se passer pour que ma vie soit la vie idéale? Qu'est-ce qui devrait encore se passer dans ma vie pour que ma vie soit une vie idéale? Je vous laisse quelques instants de réflexion. Je terminerai par la prière.